BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 9h56, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts. Pour du débat, de la controverse sur l'actualité économique du jour, avec autour de la table Isabelle Cussac, fondatrice de Génération & Co, vice-présidente de Femmes Chef d'Entreprise Paris, André Lescoux-Pietri, président de JEDI, l'agence européenne pour l'innovation, et Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Eric, j'enchaîne avec vous d'ailleurs. Vous avez publié une note absolument passionnante en fin de semaine dernière après que l'INSEE a révisé, mais alors drastiquement, la croissance, notamment en 2023. On pensait avoir fait 0,9. C'est le double, 1,9%, un point de PIB de plus. Et 2024, pareil, on a pris 0,3 point de PIB de plus. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, autant de temps après, on arrive à une différence aussi importante?
Alors d'abord, c'est normal. Hein. Il faut dire, alors peut-être pas l'écart, mais en tout cas, c'est normal. Il faut quand même avoir ça en tête. Vous voyez que quand l'INSEE, on leur demande de fournir ce qui s'est passé au cours du trimestre, d'accord, du premier trimestre, un mois à la fin du trimestre. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Nous avons les meilleurs statisticiens du monde. L'INSEE est reconnu pour ça.
Alors, pour le coup, on demande ça à tout le monde, hein, à tous les instituts nationaux statistiques. L'INSEE fait effectivement partie des meilleurs. Oui. Mais voyez, donc, à la fin d'un trimestre, 30 jours à la fin de ce trimestre, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est mission impossible. Entre nous, c'est impossible.
Donc, ça veut dire qu'il faut prendre avec bien sûr beaucoup de prudence.
Oui, c'est là où vous voulez dire. C'est-à-dire que le moins 0,1, là, qu'on nous a donné sur le premier trimestre, d'accord, le chiffre définitif, on l'aura dans 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi. Vous voyez, l'INSEE, enfin, les instituts de statistiques peuvent réviser. Donc, d'abord, ça, c'est le chiffre provisoire, puis après, il y a le semi-définitif.
C'est
2 ans et demi. Donc, vous voyez, on saura, donc, en 2029, ce qui s'est passé, effectivement, en 2026. Donc, vous voyez, avant de dire, ça y est, c'est la récession, etc., soyons calmes. Et ensuite, dans la composition de cette croissance, ils ont droit de réviser. Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est les stocks? Est-ce que c'est l'investissement des entreprises? Donc, y compris dans la composition. Voilà. Oui. Donc, premier rappel, attention, ne pas faire des comptes provisoires, ce qu'on nous donne, des théories qui sont fermes et définitives. Non, ça va être révisé, donc attention. Et donc, il arrive effectivement que de temps en temps, habituellement, la révision, elle est de 0,2, 0,3.
Oui, voilà. Maximum. Okay.
En plus ou moins.
Donc, là, c'est spectaculaire. Un point de PIB de plus en 2023.
Oui, mais on était dans un moment spectaculaire aussi. On sortait de la crise sanitaire. Il y avait l'invasion de l'Ukraine, donc de l'inflation. Et donc, le partage volume-prix, il n'est pas si évident à faire. Donc, vous voyez, pour être complètement franc, je vous ai dit que l'INSEE, c'était sans doute le meilleur institut de statistique en Europe et peut-être même dans le monde. D'accord. Sauf que peut-être que là, d'accord, ils ont attendu plus longtemps que les autres pour la révision. Dans les autres pays, ils ont révisé
plus tôt.
Et ils ont révisé de 1 point aussi. Hein. Ils ont révisé même de 1.2, 1.3. Mais un peu plus tôt. C'est-à-dire pendant, au moment des comptes semi-définitifs. Là, ils ont peut-être attendu le dernier moment. Alors, il avait un peu révisé déjà l'an dernier, mais là, ils ont peut-être un peu plus attendu, mais pour pas faire des allers-retours dans les deux sens. Donc, attention, c'est normal, et c'était un moment un peu extraordinaire.
Alors, juste avant de voir avec vous ce que ça change sur notamment la question de productivité, c'est important, et du chômage. Isabelle, est-ce que vous regardez les chiffres, c'est un truc quand même d'économiste. On est entre geeks là, hein, l'économie sur le plateau des experts. Mais ça nourrit quand même ces chiffres de la croissance à un discours, une vague médiatique d'informations qui peut éventuellement influencer les chefs d'entreprise. Est-ce que ce sont des informations qui vous impactent, vous, quand vous entendez « Ah, la croissance va bien,
moins bien ». Ce qui est sûr, c'est que le fait de rebondir très vite sur des chiffres de croissance trimestriels, dans un contexte qui est quand même un contexte atone et on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, comme on dit, c'est pas de nature à donner de la confiance.
Ouais.
Or, la confiance dans l'économie, c'est quand même ce qui permet que l'économie tourne. Néanmoins, moi, quand j'ai lu ces éléments-là, je me suis dit honnêtement, et alors ? Franchement, c'est ce que je me suis dit. Parce que la réalité, c'est que depuis 2023, on oscille entre 60 000 et presque 70 000 défaillances d'entreprises par an.
70 000 l'année dernière, absolument.
Voilà. Et que jusqu'ici, on nous disait, oui, mais ça se traduit dans les chiffres, vous voyez, on a fait, voilà. Et moi, ce que je me dis, c'est en fait, on a fait deux fois plus, et pour autant, on a toujours autant d'entreprises qui se cassent la figure. Et donc, j'ai envie de dire, c'est ça qu'on doit regarder. Et on doit se désintoxiquer de notre envie de toujours regarder une photographie et de regarder les choses en dynamique. La réalité du terrain, c'est que les entreprises, et notamment celles qui sont en défaillance, c'est-à-dire des TPE, PME et quelques ETI, qui sont ancrées sur les territoires, qui ont une influence économique et systémique, pour reprendre à ce qu'on disait très forte, ben ces entreprises-là, en fait, aujourd'hui, elles sont à l'os. Elles sont à l'os. Et donc, 1,8 ou 1,9% de croissance, ça change rien. Donc moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas arrêter de regarder ce chiffre et uniquement celui-là,
oui,
et voir comment est-ce qu'économiquement, on peut permettre à ces entreprises de reconstituer leur marge de manœuvre,
ouais,
arrêter de regarder uniquement la productivité, parce que la productivité, elle engage à sans arrêt réduire les marges de manœuvre pour présenter des chiffres qui sont meilleurs. Voilà.
André, un mot, oui, sur les chiffres de la croissance.
Oui, peut-être. Il y avait toujours ce vieux diagnostic, la France crée plus d'emplois parce qu'elle est moins productive.
Oui.
Et ça, il faut le rappeler, hein, la plupart des créations d'emplois depuis le Covid, c'est les apprentis, je crois, 20%, enfin je parle sous contrôle d'Éric, les indépendants 30%. Et donc en fait, comme on va parler beaucoup de tech et d'IA, puisqu'on est quand même au début de probablement une immense vague de réorganisation d'entreprise à l'aube de l'IA générative.
Oui.
Soit on subit en fait cette vague et on fait des révisions à la marge, mais qui n'ont pas d'impact sur effectivement la création d'emplois et la santé des entreprises, ou on accompagne ce mouvement. Et c'est ça aujourd'hui que j'avoue que je ne vois pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on accompagne ça avec un accent sur la formation? Est-ce qu'on accompagne ça aussi d'une montée en gamme?
Parce que c'est un peu le Far West pour l'instant.
C'est la seule manière de parler.
Les
sujets sont finalement liés parce que oui, égalité, transparence salariale, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est aussi dans un monde où de plus en plus quelques têtes d'affiche, quelques compétences clés vont tirer aussi tout le reste à la hausse. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on subit beaucoup. Donc voilà, on subit ces chiffres, on les révise peut-être un petit peu tard. Comment est-ce qu'on peut devenir beaucoup plus proactif? Et je pense que là, le sujet de la formation professionnelle, la formation tout court, est absolument central.
Bon, Eric, je voulais qu'on revienne sur les questions de productivité, effectivement. Comment la croissance impacte à la fois la productivité et l'emploi en France, le chômage, hein?
Non mais parce que tout de même c'est important, même si j'entends ce qui a été dit, ça n'a rien changé effectivement, on n'a pas revu les défaillances, on n'a pas revu l'emploi. Oui mais d'accord, mais on revoit quand même le diagnostic et donc les préconisations de politique économique. Allez, on se replace début 2024. Début 2024, quand on regardait les créations d'emplois qui n'ont pas été révisées et l'activité, on avait perdu 4 points de productivité par rapport à 2019. Mais quand vous perdez 4 points de productivité, alors que les pays partenaires gagnaient quasiment 2,5 points, on avait perdu 6,5 points par rapport à nos partenaires, on dit, mais on est mort. Si on n'a plus de productivité, à salaire donné, etc., la compétitivité va s'effondrer, on va perdre des parts de marché, c'est la catastrophe. Comment on finance notre modèle social si maintenant les gains de productivité sont négatifs? Vous voyez, ben là, on ne finance plus, nos retraites explosent, on a un problème de financement de nos retraites, de compétitivité, c'est la catastrophe.
Ça reste un pilier de la prospérité.
Aujourd'hui, le diagnostic, il est un peu différent. C'est-à-dire que si je me remets 2024, si j'avais eu les révisions, on ne serait pas à moins 4, on serait à 0.
Bon, c'est pas terrible. Ouais, 0, moins 1, oui.
Mais non, mais pour 2023.
Pour 2020.
Ah, ok. Bon, c'est pas terrible.
On est toujours moins 1% par rapport à 2019, c'est-à-dire qu'on...
Non. Alors ça dépend. Alors, ok. Bon, c'est bien de... Si on regarde que les salariés ou si on regarde l'emploi total. Là, pourquoi on regarde les salariés? C'est que quand le corps fait des projections de productivité, c'est des salariés, puisque c'est le salaire qui doit être payé à la productivité. Donc, effectivement, mais tu as raison de dire qu'il y a quand même l'emploi non salarié. Donc, est-ce que tu prends les chiffres avec l'emploi non salarié ou si tu ne regardes que les salariés, parce que tu dis les salaires, les retraites, tout ça, c'est les salariés, etc. Donc, si je regarde que les salariés, on est passé maintenant au-dessus de 2019 et surtout, on est revenu sur nos partenaires. Donc, le discours selon lequel il y a une singularité française...
On ne décroche pas.
Voilà.
Vis-à-vis de l'Europe, la France n'a pas décroché.
On a décroché juste temporairement, moins que ce qu'on avait en tête, d'accord ? Et ce n'est pas structurel. C'est-à-dire qu'il y avait, à partir de 2024-2025, un discours qui était, ça y est, la productivité, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais en France. Ça fait 3 ans qu'on a cela en tête. Donc, c'est fini. Et vous voyez que si vous avez ça en tête, ah ben c'est sûr que le modèle doit être complètement révisé. Ce que nous disent les révisions et les derniers points, c'est qu'au contraire, la productivité redémarre très vite et plus vite en France qu'ailleurs. Ah, alors attention, je ne dis pas que tout est bien parce qu'on a encore un déficit de productivité. Si on avait gardé les gains de productivité d'avant crise, on serait encore 3-4 points au-dessus. Donc, on n'a pas fini de récupérer. Donc,
et voyez, et ça veut dire que ça a été compensé par l'emploi, parce que il y a cette opposition toujours.
Mais non, mais ça peut pas être. Mais non, mais c'est pas. Voyez,
est-ce que ça veut dire que le chômage va arriver? Voyez, c'est un peu ça la question derrière.
Si on considère que maintenant les gains de productivité, d'accord, c'est pas du moins quelque chose, mais du plus 1,2, 1,3, 1,4. Si vous faites que 0,8 de croissance avec 1,2 de croissance, vous détruisez de l'emploi et le chômage redémarre. Vous voyez? Et donc, les gains de productivité, ce qui est génial, c'est que ça permet de payer des salaires sans, et donc du pouvoir d'achat pour les salariés sans taper dans vos marges, donc c'est super. Sauf que faire des gains de productivité quand il n'y a pas d'activité, ça fait des destructions d'emplois. Et donc vous avez un moment, les insiders, les outsiders, c'est-à-dire ceux qui restent dans l'emploi, vous allez pouvoir leur donner du pouvoir d'achat. Oui. Et malheureusement, ceux qui vont perdre leur emploi vont tomber au chômage au moment où on fait des réformes et on essaye de réduire les dépenses.
Et au moment où il y a des barques. Hein.
Ouais. Exactement. Et donc du coup, ça risque d'augmenter les inégalités de revenus, de ce point de vue-là, entre les insiders et les outsiders. Donc là, je ne dis pas que tout va bien, mais je dis que ce n'est plus les mêmes problèmes. Avant, on avait un problème, on disait c'est la compétitivité et la France est très en retard par rapport aux partenaires. Maintenant, on dit on n'a pas tout récupéré, mais on est dans la moyenne européenne, d'accord ? Et ça devrait continuer, c'est ça le problème, parce que l'IA, on va en parler, l'IA va faire de la productivité,
oui.
C'est évident. Est-ce que ça va être en complémentaire à l'emploi ou en substitution à l'emploi ? Ça, il y a un débat chez les économistes, mais ça va faire de la productivité. Donc, vous voyez, là, je pense que du coup, ceux qui étaient la productivité, c'est terminé en France, avec ces révisions et avec les derniers points, pourrez revoir leur jugement, et si vous revoyez votre jugement, vous changez de politique et de préconisation de politique. C'est pour ça que c'est bien aussi de refaire un petit peu le passé pour comprendre un tout petit peu ce qui peut nous arriver dans le futur.
Enfin, ce que j'entends, c'est davantage d'inégalités qui vont monter, donc il va falloir les corriger.
D'autres problèmes.
Ce qui est étonnant, c'est que cette croissance augmentée, en quelque sorte, n'a pas permis un rétablissement des comptes publics.
Pourquoi ?
Qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre.
Juste en un mot, c'est parce que les finances publiques, c'est sur le PIB en valeur. Là, ce qui a été changé, c'est le rapport entre le volume-prix. Et donc, les impôts, c'est sur la valeur, c'est pas sur le volume. Et donc, l'INSEE n'a fait que changer le rapport entre volume-prix. Et donc, puisque la croissance est en volume, il dit qu'il y a eu plus de croissance, mais pas plus de croissance en valeur, plus de croissance en volume. Pour les finances publiques, ça ne change rien.
Bon, ça laisse Isabelle dubitatrice.
Oui, alors, j'ai envie de dire, soyons positifs. Je suis de nature optimiste. On a fait moins pire. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est de nature à participer à reconstruire un peu la confiance. Néanmoins, et c'est très vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en termes de politique publique, on fait différemment. Mais quand même, avoir des politiques publiques qui sont assises uniquement sur ce sujet-là, ça obère notre capacité à avoir de l'investissement long terme, par exemple sur l'accompagnement d'un changement extraordinaire, culturel, qu'est l'arrivée de l'IA générative. Et aujourd'hui, quand je mets en rapport ce chiffre-là avec les défaillances d'entreprises, c'est bien parce que où est le plan long terme ? On veut quoi comme économie pour demain ? On ne le sait pas. Les entrepreneurs naviguent complètement à vue sur ces sujets-là.
Vous pourriez dire l'État navigue complètement à vue, en premier lieu. C'est ça qui est terrifiant. Mais effectivement, Eric a tout à fait raison de dire, en fait, on se rend compte 2 ans après que finalement le constat qu'on posait était erroné. Donc heureusement, on corrige. Mais ça pose quand même une question majeure. Pour moi, le rôle de l'État, on en a parlé à propos de la loi sur la transparence salariale, il est de fixer un cadre et d'être le garant du long terme, d'être le garant du projet collectif. Si effectivement, même au niveau de nos outils, je veux bien entendre que l'INSEE est la meilleure organisation de statistiques du monde, mais quand même, ça laisse penseur. C'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi insister. Nos outils de pilotage, nos outils de formation, je dirais tout le reste, et une manière de faire peut-être très différente, moins top-down et beaucoup plus collaborative, ce qui veut dire de la confiance. Enfin, on est vraiment dans... Là, pour le coup, je pense qu'on est dans un changement de mentalité absolument structurel.
Nous sommes à l'ère du changement. Peut-être que l'IA va aider à opérer et à accélérer tous ces changements. En attendant, la Commission européenne a présenté la semaine dernière un paquet pour la souveraineté numérique, un vaste plan pour réduire sa dépendance technologique, notamment aux Américains avec 200 milliards d'investissements. Hein. Alors attention, investissement privé, soyons clairs, mais c'est un paquet absolument massif. Qu'est-ce que vous en avez retenu, André Le Scroupetti ?
Vous savez que je suis souvent assez critique et je dis souvent que les bonnes politiques en France et en Europe, elles semblent être uniquement mesurées par le nombre de milliards qu'on met. Bon, tous les ans, on met 100 milliards dans la recherche en Europe.
Mais là, on voit qu'il y a des sujets de CAPEX. Hein, voilà.
La très bonne nouvelle, c'est que enfin, on ne voit plus le sujet technologique comme un sujet réglementaire, mais comme un sujet d'achat, comme un sujet de demande, comme un sujet de développement de filières, de compétences, etc. Donc, en ce sens-là, j'ai envie de dire bravo.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Expliquez-nous un peu.
Écoutez, il y a surtout le fait de reconnaître qu'aujourd'hui, on a une dépendance technologique quasi totale, c'est-à-dire sur 80% de nos achats digitaux, nos abonnements cloud, etc., on dépend entièrement d'acteurs non européens. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, que ce soit avec la guerre en Ukraine, que ce soit avec la dépendance par rapport au spatial, que ce soit la dépendance par rapport à où se trouvent nos données, qu'en fait, ce n'était pas juste un sujet purement économique, mais que c'était un sujet où, en fait, notre capacité de décision, c'est ça la souveraineté, notre capacité d'édition, nous ne l'avions plus.
Pardon, mais ça me semble délirant d'attendre 2026.
Et c'est ça mon point. C'est
pour qu'aujourd'hui, acter cette prise de conscience.
Tout le monde célèbre ça et il faut le célébrer, mais il n'y a rien. On n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. On est juste en train de rendre.
On a ouvert les yeux, quoi.
On se rend compte qu'il y a ce chiffre qui circule maintenant depuis à peu près un an, que tous les ans, nous achetons pour 200 à 250 milliards de services informatiques qui pourraient être autant de facteurs de création de croissance chez nous. On a, tout simplement en faisant un tout petit peu l'effort, comme on disait sur la transparence, on fait un peu plus l'effort d'acheter français ou d'acheter européen. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ce qui est dans ce paquet, c'est un, d'utiliser beaucoup plus l'achat public et marché privé, marchés publics comme un premier acheté. Voilà, une préférence européenne, mais qui ne doit pas être une autarcie européenne. C'est juste de dire, c'est une proposition que nous, on a fait il y a 4 ans. C'est de dire que dans chaque achat public, on impose qu'il y ait au moins une offre européenne qui soit considérée. Parce qu'avant, c'était comme, si avant on ne considérait que 3 ou 5 hommes pour un poste de direction, forcément, il n'y avait jamais de femmes qui arrivaient. Si on n'y avait que 3 opérateurs américains, forcément, on n'avait jamais. Donc, c'est quelque chose d'assez basique. La deuxième chose, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il s'agit de créer une demande pour faire émerger les industries du futur, notamment, c'est le deuxième accent de ce paquet, sur les semi-conducteurs, dans lequel on a une dépendance absolument complète, puisqu'on parle d'IA, il faut des semi-conducteurs, on parle de spatial, il faut des semi-conducteurs, il faut de l'automobile, il faut des semi-conducteurs, il faut du digital, il faut des semi-conducteurs. Donc ça, c'est la deuxième chose. Là où ce plan est à nouveau complètement insuffisant, c'est que on fixe des objectifs. On fixe des objectifs en disant, on montre les muscles, dans 5 ans, on aura 20% de part de marché dans les semi-conducteurs. Je rappelle que Thierry Breton avait déjà claironné ça il y a 5 ans. Un objectif de 20%, nous sommes à 11,2%.
Oui, il y a des marges de progression encore.
Oui, il y a des marges de progression. Enfin, il y a des gouffres, il y a des caps, il y a des péninsules, comme on dirait, immenses à remplir. Ce que ça montre, peut-être trois choses. Un, c'est que l'impératif de ce marché unique est plus important que jamais. Sans l'échelle, nous n'aurons jamais la capacité en fait de justifier les investissements terrifiants énormes qu'il y a à faire. Deuxième chose, la vitesse. Je rappelle qu'il y a eu 75 milliards d'euros promis à Choose France. Je rappelle que les 100 milliards qui avaient été promis sur le sommet de l'IA en février 2025, nous n'avons pas commencé à couler le béton des data centers prévus en 2025. Les premiers, apparemment, vont être coulés en 2026 pour un dixième de la capacité prévue en février 2025 en 2030. Donc, ce sujet de vitesse est absolument essentiel. Tant qu'on ne réglera pas ça, et ça a à voir avec la réglementation, puisque plus on enchaîne les réglementations, plus en fait vous créez des barrières. Je rappelle que Elon Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a créé un data center qui s'appelle Colosseus en 122 jours. Alors, il y a peut-être un petit peu de marketing. Nous, en moyenne, il nous faut 3 à 5 ans. Donc, on n'est plus en train de parler de 10%. On est en train de parler d'un ordre de grandeur, du x10. C'est ça qu'il faut qu'on change en Europe.
Isabelle, la chef d'entreprise que vous êtes chez Génération Co, comment on aborde cette IA? Est-ce qu'on a une vision un peu patriotique de se dire il faut que je prenne du Mistral plutôt que du ChatGPT, pour faire simple, ou pas?
En fait, on l'aborde sous l'angle de la dépendance. Récemment, dans une des réunions avec FCE Paris, on avait un certain nombre dans le groupe d'avocats, d'assureurs, etc. Et moi, mon dada, c'est le sujet de la robustesse. Vous savez, c'est cette notion qui a été introduite dans le débat public par Olivier Amand, qui est un chercheur, et qui dit la robustesse d'un système, c'est sa capacité à rester stable à court terme et viable à long terme malgré les fluctuations. Monde fluctuant étant celui dans lequel on est aujourd'hui.
Absolument.
Et donc, quand vous avez d'un coup l'avocate qui se dit, mais en fait, tous mes dossiers sont dans un cloud qui est aux États-Unis, un notaire pareil, etc., il y a cette question-là. Donc,
elle existe cette prise de conscience aujourd'hui que tout ce qu'on est en train de mettre
clairement
dans nos moteurs d'IA, toutes ces datas, nos compétences professionnelles sont en train de partir aux États-Unis.
Et donc, c'est pas que le sujet de l'IA, c'est le sujet de l'IA et le sujet de la propriété des données et de la réversibilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les systèmes SaaS fonctionnent de telle manière qu'en fait, il n'y a rien de réversible. Donc, la première réponse, c'est oui, effectivement. Il y a davantage de confiance à aller sur un système qui serait un système européen, qui serait régi par des règles et des normes, et globalement, on est plutôt tous d'accord avec les RGPD, etc., etc. Donc, oui, sur ce sujet. Oui, on irait davantage sur une IA, et d'ailleurs, en France, aujourd'hui, beaucoup de gens sont passés sur Claude, plutôt que ChatGPT, et ce qui s'est passé avec le gouvernement américain n'y est pas pour rien. Le fait qu'il soit assis à côté du pape François lorsqu'il fait son encyclique, non plus l'un des présidents d'Anthropique. Donc,
attention, Claude est quand même extrêmement américain.
Absolument. Non mais
malgré le nom, mais très bien trouvé.
Tout à fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de relever, c'est que là, on a aussi une formidable opportunité de sortir de ce prisme qui est « créons des géants ». Parce que c'est la diversité des solutions, le fait qu'elles s'adaptent de manière très locale et qu'elles se pluguent entre elles, qui va permettre d'avoir ce tissu qui va nourrir l'ensemble du territoire.
Et c'est un peu ce que propose Mistral, du sur-mesure pour chaque entreprise.
Oui, mais moi j'ai envie
qu'il y ait
plein d'entreprises en fait qui puissent à l'échelle locale développer des solutions. Et puis ce que je note, c'est quand même que cette proposition, enfin ce paquet, il intègre l'open source. Et l'open source pour l'encapacitation, c'est essentiel. C'est pas la propriété, c'est je mets à disposition et je crée les capacités. C'est ça la robustesse d'une nation et c'est ça la robustesse d'un plan comme celui-là. Et ça parle de long terme.
On a un tournant là, Eric et hier, un tournant industriel, on a pu dire.
Oui.
Bon, André,
c'est le bon mot. C'est industriel. Oui. Je pense que ça révèle tout de même l'incomplétude dans la construction européenne. Et vous voyez, on a pensé quand on a créé l'euro, on a créé l'économie, on pensait que le politique suivrait, qu'il y aurait en face de la monnaie un État. En fait, en face de la monnaie, il n'y a pas d'État. Et même, il y a maintenant 21 États sans monnaie. Ça peut pas fonctionner. Il y a pas, du coup, et donc on a essayé de dire, allez, c'est un endroit uniquement un marché avec de la concurrence, mais pas de politique industrielle. Donc on fait de la concurrence. Et vous voyez, la concurrence, ça veut dire quoi? C'est qu'on juxtapose les intérêts des uns et des autres. Et donc on est venu en concurrence encore plus marquée avec les Allemands, les Italiens, etc. Ouais. Et donc on se fait de la concurrence en pensant que c'est comme ça que le consommateur allait être, finalement le mieux servi. Or, on se rend compte qu'on devient de plus en plus dépendant à cause de cette simple concurrence qui n'est pas accompagné d'une politique industrielle, c'est-à-dire qu'il faudrait donner aussi un cap. Et pour donner ce cap, il faut qu'on soit en Europe. Et donc, si vous voulez recristalliser un esprit européen qui n'existe pas aujourd'hui, c'est avec ce type d'initiative que vous allez pouvoir peut-être y arriver. Et donc, c'est là où il faut mettre en avant vraiment la politique industrielle dans cet esprit de concurrence, c'est les deux en même temps. Et je pense que, vous voyez, c'est ce que fait un peu la DARPA. Enfin, aux États-Unis, on parle beaucoup de la DARPA. C'est grâce à la DARPA qu'on
y
arrive.
Merci, Eric.
C'est de la pub pour Jedi. C'est formidable.
Mais je pense que la DARPA n'est pas la seule solution. Il faut aussi qu'elle soit accompagnée. Et vous voyez, aux États-Unis, on ne parle pas assez du Bayh-Dole Act. C'est-à-dire que vous avez la DARPA. D'accord, c'est-à-dire que c'est globalement l'État qui prend les risques quand le marché ne peut pas le prendre parce que c'est trop incertain, etc. Donc on accepte l'échec, mais c'est tout
pour l'amorçage en tout cas.
Mais pour l'amorçage, mais ensuite, une fois qu'il y a la découverte, il faut qu'elle soit diffusée cette découverte. Si vous laissez dans la DARPA et donc dans les États fédéraux, ça ne marche pas. C'est là où en 1980, quand il y avait la concurrence avec les Japonais, etc. On a créé sous Clinton, me semble-t-il, le Bayh-Dole Act. C'est-à-dire que globalement, ce sont les universités qui récupèrent les brevets et qui essayent de les industrialiser et qui et gardent oui. ensuite l'argent.
Pourquoi on attend de malin.
Et donc c'est comme ça qu'on
France
a des grosses universités, des Stanford, etc., qui ont et on arrive à le finalement l'innovation qui est très générale devient finalement une innovation très technique. Mais donc il faut les deux, il faut la DARPA et le Beidel Act qui sont extrêmement importants. Tout ça au niveau européen. Vous voyez, ça c'est vraiment d'un point de vue théorique, ça serait génial qu'on y arrive. D'un point de vue pratique, je pense qu'on est quand même très très loin de cela.
Je vois André Le Scroupietri qui boit du petit lait.
Mais non, c'est votre mais job, c'est André. Je rajoute Eric Ayer dans la longue liste des dirigeants et des penseurs économiques qui pensent qu'il faut effectivement ce genre d'agence d'innovation de rupture. Mais je pense qu'en fait, il faut le penser à l'aune de 2026. C'est-à-dire que la DARPA était effectivement une institution qui dépend du département de la défense. Aujourd'hui, en fait, ce qui est fascinant avec l'IA, c'est qu'en fait, on est rentré dans le monde du transversal. Et c'est ça qui est tellement difficile pour tous nos organisations, on a tous été organisés, organisations privées ou publiques, par silos. Hein. Vous aviez les semi-conducteurs d'un côté, l'automobile de l'autre, l'industrie, l'économie, la formation, et vous vous rendez compte que si vous n'avez pas, on a beaucoup parlé d'aspect systémique, si vous n'avez pas une approche qui en fait couvre toutes les zones, vous allez être aussi fort que le maillon le plus faible. Et c'est ça la vraie réorganisation. Mais je pense qu'à la fois pour un libéral, ça a beaucoup d'attractivité parce que ça veut dire que ça cantonne quand même l'État à créer ce cadre.
Oui.
Et pour les gens qui sont des adeptes d'une intervention forte de l'État, ça donne un rôle absolument majeur à l'État pour à nouveau ce garant du long terme. Et qui réussit aujourd'hui, et ça me fait énormément de mal de le dire, c'est aujourd'hui les régimes autoritaires qui, oui, en fait, sont devenus beaucoup plus habiles à créer ce long terme, à fixer des caps, à donner finalement... Et ça d'ailleurs exerce une fascination incroyable sur beaucoup de dirigeants d'entreprise. Vous avez qu'à entendre ceux qui reviennent de Chine en ce moment. Et c'est malheureux. Et
oui.
Donc ça ne dépend que de nous, parce qu'on n'a pas non plus des fonctionnaires moins bons que les autres. Par contre, on est absolument habitué, ça c'est la DGE, c'est la caricature,
direction générale des entreprises, à Bercy.
Très, très top-down. Le top-down, c'est quelque chose du 20e siècle. Créer un cadre général, ça, et c'est une opportunité, donc j'espère que le DGE et nos gouvernants...
Le message est passé à Thomas Cour, qui, je suis sûr, nous écoute très régulièrement, et vous m'amenez très directement, allez, il nous reste 5 minutes à passer ensemble, sur ce sujet des télécoms, qui est l'exemple typique de ce que vous venez de citer, André Le Scroupietri. En Chine, il y a grosso modo 3 opérateurs de télécom. Ça veut dire 500 millions de clients pour un opérateur. En Europe, on en a plus d'une quarantaine et donc c'est en moyenne 5 millions de clients par opérateur. Je pose ce contexte pour parler du deal qui a été signé ce week-end. Enfin, SFR vendu à ses 3 autres concurrents. Et donc, nous allons passer de 4 à 3 opérateurs en France. Ma question ce matin, on va faire une question courte, réponse courte, mais est-ce que c'est bon pour l'économie, mais est-ce que c'est bon pour le consommateur, est-ce que c'est bon pour la politique industrielle? De quel côté vous penchez, Eric Ayer, et ensuite Isabelle?
Mais globalement, c'est vrai qu'on pensait que passer de 3 à 4, du coup, ça ferait plus de concurrence, donc ça ferait baisser
les prix. Ah bah ça a fait baisser les prix, pour le coup.
C'est bon pour le consommateur, c'est ce qui s'est produit. Est-ce que, du coup, on a la taille critique pour pouvoir investir demain? On a vu que non. Et donc, globalement, effectivement, peut-être que 3, c'est le meilleur équilibre. Bon, là, je sors un peu de mes compétences, mais de toute manière, il faudrait essayer de raisonner au niveau européen et pas au niveau français de ce point de vue-là, parce que c'est 3, je crois qu'on est à plus de 40 au niveau européen. Donc quand vous dites 3 aux États-Unis, il faudrait plus dire, versus 40 en Europe. Mais est-ce que c'est transposable? C'est-à-dire que est-ce que moi, en France, je peux prendre un opérateur allemand? Non, donc vous voyez qu'on est encore très loin d'avoir construit cette Europe.
C'est le sujet de la consolidation européenne, encore et toujours. André, Isabelle?
Enrico Letta, là, qui pour moi a le rapport le plus important, puisqu'il parle de créer enfin ce marché unique, qui aujourd'hui est un mythe, citer le fait qu'il s'est installé, je crois qu'il est devenu recteur d'une université à Madrid, que quand il s'est installé en tant qu'Italien, alors qu'il est prof à Sciences Po à Madrid, il a en fait dû ouvrir un troisième compte bancaire pour avoir son numéro en 34, je crois, qui est le numéro espagnol. Donc on voit effectivement qu'on n'y est pas. Alors que par contre, sur la facturation, on y est. Puisqu'aujourd'hui, vous appelez avec un mobile français en Allemagne, il n'y a plus les fameux frais de roaming. Donc on a fait la moitié du chemin. Et effectivement, aujourd'hui, mais il y a cette histoire des télécoms, moi je ferai pas de commentaires là-dessus, mais je prends l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le spatial. Vous avez trois acteurs du spatial. Moi, personnellement, je pense que c'est trois éclopés qui se marient, mais ça, c'est une autre chose, qui essayent de se marier. On a lancé 0,2% du tonnage l'année dernière dans l'espace, l'Europe, 0,2%. Et la Commission européenne dit, oui, attendez, ces trois opérateurs, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque monopolistique par rapport à Elon Musk? Ça devrait être approuvé.
On est à côté de la plaque.
Alors, charge ensuite aux dirigeants d'en faire un succès, ça, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais le fait que ça dure maintenant, Bromo, 2 ans, montre que là, on est par rapport à un système qui n'a toujours pas compris que la vraie concurrence de Paris, de Munich, de Londres, elle est à Shenzhen et à Palo Alto, elle n'est pas au sein de l'Europe. Donc là, il y a un ajournement, mais ça fait 10 ans qu'on en parle.
Madame Encore une fois, ce problème de vélocité.
Idéologiquement contre, mais j'ai l'impression que le politique peut vouloir le changer, vous avez les bureaucraties qui, à l'intérieur, ne veulent pas changer. Et ça, c'est un vrai problème politique. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Ce n'est pas acceptable qu'on mette tellement de temps à changer.
On manque de politique industrielle, Isabelle Cusack, c'est un mot de la fin.
Complètement. Ça parle de à quel endroit on place nos politiques industrielles à une échelle nationale, méga locale, à une échelle européenne. Aujourd'hui, on a beau avoir... Enfin, la réflexion sur ces quatre opérateurs qui deviennent trois, elle devrait porter sur pourquoi est-ce que je ne peux pas accéder aux 40.
Eh oui. Voilà. C'est à l'échelle.
Voilà. Et c'est ça le vrai sujet. Donc, on est sur une industrie qui doit être considérée à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'on fait pour l'économie locale?
Bon, on attend, hein, pour l'instant, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait.
On va dans le bon sens.
On va dans le bon sens. Bon, voilà, allez, on termine sur une note positive. Merci à tous les trois, Isabelle Cusack, fondatrice de Génération & Co, vice-présidente de Femmes Chefs d'Entreprise Paris.
Merci.
Merci, André Le Sekroug Pietri, président de JEDI, la DARPA européenne.
Merci.
On pousse pour que vous alliez toujours plus loin. Soutenez le JEDI. Et Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE. Merci pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.